Comme tout le monde, on m'a instamment demandé que nous nous entretiâmes de Hanouka. Bon, nous allons donc élucider une série de questions. Tout d'abord, quand est-ce que ça tombe, Hanouka? Kavhe Bekislev. Le 25 du mois de Kislev. Ah bon? Et pourquoi c'est le 25 Kislev? Je reprends la question étant donné que nous avons été troublés par un vacarme. Bon. Donc je reprends. Pourquoi est-ce que la fête de Hanouka tombe le 25 du mois de Kislev? Là, quoi? L'inauguration, quoi, la réinauguration de l'autel dans le temple. Ça a duré 8 jours, ça a commencé le 25 Kislev. Et donc, on fait la fête. Après la profanation de l'autel par Antiochus Marchemo. Maintenant, j'aimerais comprendre, ceux qui ont fait l'inauguration du temple le 25 Kislev, c'était les Hashmonaïm. Pourquoi ont-ils choisi cette date?
Parce qu'elle était prévue déjà dès la création.
Parce qu'elle était prévue, comment tu sais ça hein?
En général, un événement dans la Bible, on voit que c'est parce que...
Oui, mais comment est-ce que... Quelle était la raison rationnelle que se sont données... Quoi?
La lumière, c'est donc ce qu'il y a beau de vérifier.
Oui, mais on a parlé ici d'inauguration du Beth Amikdash, on n'a pas parlé de la lumière. Il y a un rapport entre la lumière et l'inauguration. Donc, dès que le mot lumière apparaît dans le 25, c'est le 25e mot de la Torah. Donc, tu dis, les Hashmonaïm, ils se sont dit, tiens, ben pourquoi pas? C'est ça le truc? Si c'est vrai, alors dans ce cas-là, le roi Salomon, qui a fait son inauguration du Beth Amikdash le 8 Tishrei, ou bien Moshe, qui a fait l'inauguration du Mishkan le 1er Nissan, ils étaient à côté de la plaque. Mais pourquoi précisément lors de l'inauguration du Beth Amikdash à l'époque des Hashmonaïm? J'ai l'impression que vous n'avez jamais lu le livre des Maccabées. Il y a un livre qu'on appelle le livre des Maccabées. Il y en a même deux. Le premier livre des Maccabées et le deuxième livre des Maccabées ou des Hashmonaïm, qui est un livre historique. Il y en a un, le premier a été écrit probablement à l'origine en hébreu, mais il n'est arrivé à nous que dans sa version en grec. Le deuxième a été écrit dès le départ en grec. Il est le résumé d'un autre livre en 5 volumes qui n'est pas arrivé jusqu'à nous. En tout cas, donc, nous avons l'histoire des Maccabim, des Hashmonaïm, nous l'avons en grec. Et dans le livre des Maccabées, il est écrit en toutes lettres que le 25e jour du mois de Kislev, c'était 3 ans, jour pour jour, après la profanation du Beth Amikdash par Antiochus. Le 25 Kislev, Antiochus avait introduit une statue de Zeus olympien dans le Kodesh HaKodashim et présenté un cochon sur l'autel. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'il a fait? Il a donc inauguré un temple païen. Il a fait sa Hanouka, son inauguration de son Beth Amikdash païen, le 25 Kislev. Donc, quand les Hashmonaïm ont voulu donner la réponse à sa profanation, ils ont choisi la date même de la Hanouka d'Antiochus pour faire leur Hanouka à eux. Oui.
Une question, c'est quoi, lorsqu'Antiochus a fait ça, il n'a pas été brûlé sur place
Oui, c'est extrêmement choquant. On aimerait bien que les méchants soient punis immédiatement. Comme par exemple, il y avait un goy en Italie du nom de Benito Mussolini, qui, lorsqu'il était... Il a fait de la politique, hein. Oui, oui. Mais quand il a commencé sa carrière de politicien, il a d'ailleurs commencé comme communiste, avant de devenir fasciste, il promouvait l'athéisme. Et quand il donnait une conférence en grand public, Il enlevait sa montre qu'il posait sur la table et il disait « Si Dieu existe, je lui donne 5 minutes pour me foudroyer. » D'accord ? Ben, il n'a pas foudroyé. C'est marrant, hein, quand même. Donc c'est la question, comment se fait-il qu'Antiochos s'est pu faire une chose pareille sans être foudroyé ? Mais en fait, la question est plus importante, est basée sur quelque chose. C'est le fait que Nadav et Avihu, eux, quand ils ont fait une gaffe, paf, comme ça, ils ont été brûlés. Alors pourquoi est-ce qu'Antiochus, qui fait bien pire que Nadav et Avihu, n'est pas brûlé ? D'accord ? La question est très importante. Elle a un rapport avec le niveau de sainteté du deuxième temple. C'est quelque chose qu'on va devoir élucider dans la suite. Donc je garde ta question en tête. On va en parler. Oui.
Voilà, l'inauguration, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de le réinaugurer avant, et ils l'ont pas fait.
Exactement. D'ailleurs, on voit dans le livre des Hachmonaïm que la Jérusalem a été conquise le 5 qui se lève.
En 20 jours, ils ont laissé le temps.
Non, ils ont nettoyé, il y avait des herbes qui avaient poussé, etc. Il a fallu retaper le Misbéar qui était complètement qui était profané, donc il a fallu mettre d'autres pierres, etc. Ça a pris du temps, je veux bien. Mais il est évident qu'un événement aussi important que l'inauguration du Beth Amikdash, on ne choisit pas la date au hasard.
C'est plutôt possible, quoi.
Ça, pas forcément. On va voir qu'il y avait une intention là-dedans. Oui. En fait, la question qui se pose, mais c'est pourquoi est-ce que Antiochus, lui, a décidé d'inaugurer son temple païen le 25 qui se lève. Hein? C'est tombé par le... C'est-à-dire que chez lui, il n'y avait pas d'importance. C'est-à-dire que chez les goyim, tu dis, les choses liées au culte, c'est au hasard. Il n'y a que chez nous que c'est précis. Oui, c'est ça. Puisqu'il a introduit une statue de Zeus olympien dans le Kodesh HaKodashim et qu'il a présenté un cochon sur l'autel. Donc, il a inauguré, proprement parlé, un temple païen dans le Beth Amikdash. Donc, il a fait sa Hanouka et nous, on a, en réplique, fait notre Hanouka à nous. Et donc, la question que je me pose, quand même, Antiochus, qui n'était pas n'importe qui, il était un roi, un grand roi, c'est le Cid. Et donc, s'il a choisi le 25 qui se lève, c'est qu'il avait des raisons de le faire. Oui.
Mais c'est nous qui avons fait la même chose que lui. C'est oui. Pas lui qui a fait la même chose que lui.
Ah, c'est là la question.
Il devait y avoir certains
quoi?
Événements précédents.
Oui. Il y a une histoire avec Adam et Sean, avec le 25 qui se lève.
J'en sais rien. Pour l'instant, je ne pense pas qu'Antiochus il était au courant de ce qui se passait chez Adam et Sean.
Le 25, c'était un jour spécial à l'époque. Le jour où il a voulu attaquer, le 25, il voulait choisir. Et qu'il est allé tout,
quoi?
Le 25.
Oh, le 25 quoi?
À l'époque où Antiochus il a voulu attaquer, il se passait un.
Il s'est pas attaqué, il a pas attaqué, il a profané, le Beth Amikdash. Il n'avait pas besoin d'attaquer quoi que ce soit.
Il se passait quelque chose,
oui.
Il est certain que les Grecs ne faisaient pas les choses par hasard.
Oui, les Grecs ne faisaient pas par hasard. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le Grec en question, qui est d'ailleurs un Macédonien, pourquoi est-ce qu'il a choisi le 25 qui se lève? La réponse est que c'est parce que c'était la fête de Hanouka. Oui. Mais pas la fête de Hanouka que vous connaissez, une autre fête de Hanouka. Pour bien le comprendre, nous allons lire dans le livre de Haggai. Est-ce qu'il y aurait ici par hasard, un Tanakh?
Oui,
il y en a plein. Un seul me suffit. Un Madra. Un Tanakh? Je ne vois pas de Tanakh.
La lumière va arriver.
Donc, je lis ici dans le livre de Haggai. Non, un seul me suffit. Dans le livre de Haggai. Haggai était un prophète. En français, on l'appelle Agé. Agé. A, 2 G, E, accent aigu, E. Mais en hébreu, Haggai. Het Gimel Yud. Het Gimel Yud. Comment tu écris le Gimel? Comme il faut? Ouais, parce que souvent les Français, ils se trompent dans le Gimel. Ils écrivent un Zayin au lieu d'un Gimel.
Non, non.
D'accord, c'est bon. D'accord, oui. Quoi? Ah bon, d'accord. Alors, Haggai, D'ailleurs, qui était copain d'un autre prophète, qui s'appelait Zecharia. Zecharia et Haggai prophétisent en la deuxième année du roi Darius. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième année du roi Darius? Eh bien, ils encouragent le peuple à construire le temple. Le temple était détruit depuis qu'il avait été détruit par Nabucodonosor, roi de Babylone. Ça faisait déjà 70 ans que le temple était détruit. Les Hébreux avaient réussi à recevoir une autorisation de reconstruire le Beth Amikdash du roi de Perse. Et donc, les prophètes Haggai et Zecharia encouragent le peuple à construire le Beth Amikdash. Et dans cet encouragement, il y a un chapitre de Haggai, dans le deuxième chapitre, dans lequel il dit au peuple la chose suivante. Be'esrim, pardon. C'est ça. Be'esrim ve'arba lateshi, lors du 24e jour du 9e mois. C'est quoi le 9e mois? Si on compte à partir de Nissan, c'est qui se lève. D'accord? Ça? Hein? Bah, Tishri, c'est le 7e, et Marcheshvan, c'est le 8e, et qui se lève, c'est le 9e. Hein? Donc, le 24e jour du 9e mois, c'est donc le 24 qui se lève. C'est donc un jour avant Hanouka. Bishnat Shtaim de Dariavesh, en la deuxième année de Darius, Hayad var Hashem, Beyad Haggai Anavi les morts, la parole de Dieu a été donnée par l'organe de Haggai le prophète en ces termes. Koamar Hashem Tsevaot, ainsi parle l'Éternel des armées. Shealna et Akohanim Torah les morts, interroge les Kohanim sur la Torah en ces termes. Et qu'est-ce qu'il doit leur demander aux Kohanim? Hen yissa ish besar kodesh bichnaf bigdo. Si un homme porte de la chair sainte dans le coin de son vêtement, venaga bichnafo el alechem, et que ce coin de vêtement touche du pain, velanazid et un plat cuisiné, velayain vel shemen vel kol ma'achal, ou sur du vin, de l'huile ou tout autre aliment. Haïkdash, est-ce qu'il sera sanctifié? C'est-à-dire, est-ce que la chair d'un sacrifice qui est sainte va sanctifier l'huile ou le vin, etc. Vayanu a Kohanim vayomerulo, et les Kohanim répondirent non. Vayomer Haggai, et alors Haggai leur a demandé, imigat emenefesh becholele, si quelqu'un qui a touché un mort touche ces objets-là, hayitma, est-ce qu'ils vont être souillés? Vayanu a Kohanim vayomeru yitma, et les Kohanim répondirent, il sera souillé. Donc on voit que la Kedusha n'arrive pas à se transmettre, mais l'impureté se transmet. Vayan Haggai vayomer, alors Haggai répondit en disant, Ken amaze vechen agoyaze, ainsi est ce peuple, ainsi est cette nation, lefanai nous machem, devant moi, parole de l'Éternel, ainsi que toutes les actions de leurs mains, va asher yakrivu sham, et ce qu'ils présentent en sacrifice, tamehu, est impur. Donc il y a ici une réprimande envers le peuple qui est impur. Ah bon. Remarquez que le 24 qui se lève, c'est indiqué, la date est indiquée, comme étant un jour où on pose des questions concernant la pureté et l'impureté à des kohanim. Ça nous rappelle quelque chose. Ve'ata simuna levavchem, et maintenant prêtez attention. Minayom aze vamala, à partir de ce jour et après. C'est quoi après? C'est-à-dire le 25. Le 25 qui se lève. Miterem sumeven el even be'echal Hashem, avant qu'une pierre ne soit posée sur une pierre dans le sanctuaire de Dieu. Non, il ne s'agit pas d'une. Non. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore construit le Beth Amikdash. Vous n'avez pas encore construit l'autel. Miyotam ba el aremat esrim vaita asara. Lorsque vous alliez chercher une meule qui ferait, pour qu'elle fasse 20, elle ne faisait que 10. C'est-à-dire que la récolte était mauvaise cette année-là. Ba el ayekev l'arsof hamishim pura. Vous arrivez au pressoir pour en faire sortir 50 pura. Pura, c'est une quantité de liquide. Vaita esrim, elle n'en a donné que 20. Iketi etrem bashidafon ou vairakon ou vabarad. Je vous ai frappé des maladies et de la grêle. Et kol maasi edechem, toutes les œuvres de vos mains. Ven etrem elaynu machem. Mais vous ne revenez pas à moi, parole de l'Éternel. C'est-à-dire que le prophète dit, vous savez, la récolte a été mauvaise, c'est pas pour rien. C'est parce que votre comportement le mérite. Simuna levafrem, mais prêtez attention. Minayom azev amahala, à partir de ce jour et après. Donc il insiste, un peu lourd, quoi. Miyom esrim ve'arba lateshi, à partir du 24e jour du 9e mois. Les minayom, à partir du jour. Asher yusad echal hachem, simu levafrem, du jour où a été fondé le sanctuaire de Dieu, faites attention. C'est-à-dire que le 24 du mois de Kislev, a été posée la pierre de fondement, a été fondé le nouveau sanctuaire. Ça a pris 4 ans pour construire. Mais l'autel était déjà prêt. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 25 au matin? Ils ont fait des sacrifices. C'est-à-dire que le 25 du mois de Kislev était le jour de l'inauguration du deuxième temple, de l'autel du deuxième temple. Donc, il est évident que les Juifs, chaque année, le 25 qui se lève, faisaient une fête d'inauguration de l'autel, Hanukkah Tamizbeach. Donc, quand Antiochus veut profaner l'autel des Juifs, il va choisir cette date précisément pour profaner. Et elle va être à nouveau choisie par les Hashmonaïm pour purifier. Donc, en fait, la question de savoir si c'est on a pris de lui ou c'est lui qui a pris de nous, les deux réponses sont vraies, oui. Ça s'est passé 200 ans plus tard. Oui.
Ce que j'ai compris, c'est que on a dit que le peuple il est comme la viande qui touche.
Il est impur.
Il est impur, donc il leur a interdit de faire des sacrifices.
Non, c'est une réprimande, une impureté morale. D'accord? Et donc. Il veut les encourager à se démener un peu. Parce qu'ils ils étaient un peu paresseux, ils ne voulaient pas construire le Beth Amikdash, et le prophète les engueule. Vertement. D'accord? Haod azera bamigura, pourquoi gardez-vous les graines dans la grange? Ve'ada gefen, ve'atena, ve'arimon, ve'sazait lonasa, et la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont pas encore porté leurs fruits. Minayom azé avarer, à partir de ce jour, je vais bénir. C'est-à-dire, la récolte sera bonne. Il y aura la pluie. Vaïd var Hashem shinit el Chagai, besrim verba la chodesh les morts. Et la parole de Dieu fut une deuxième fois adressée à Chagai, le 24e jour du 9e mois, en ces termes. Et mort el Zerubbabel pachat Yehuda les morts. Dit à Zorobabel, gouverneur de Judée, en ces termes, ani marish et hashamayim vetaaretz. Je vais ébranler le ciel et la terre. Ve'afarti kisei mamlachot. Je renverserai les trônes des empires. Vishmadeti, Chosek Mamlechot Agoim, je vais détruire la puissance des empires des nations. Vafarti Merkava Verochvea, je renverserai les chars et leurs chevaliers. Veyardou Susim Verochvea, Mishbechere Vachiv, etc. Donc, il annonce également des guerres. Donc, on voit bien que le 25 du mois de Kislev n'était pas un jour au hasard. Maintenant, oui, quoi?
Donc c'est lui qui a pris de nous, pas donc on a pris de lui du tout.
C'est lui qui a pris de nous, et nous on a pris de lui.
Non,
c'est un ping-pong. Comment?
Nous on a pris de nous-mêmes.
Oui, mais c'était en réaction à Antiochus. Antiochus a profané le 25 qui se lève, donc on lui a damé son pion. D'accord? Et on a choisi le 25 qui se lève pour purifier. Mais lui, il avait choisi à cause d'une autre fête de Hanouka antérieure. Oui?
Que Antiochus il était bien au fait des choses parce qu'il y a eu des traîtres parmi nous.
Évidemment. Mais à part ça, disons que à Jérusalem, les choses étaient connues. C'est-à-dire, les gens faisaient la fête le 25 Kislev. C'était une chose évidente. Mais oui.
Tu
Parce que c'est une chose banale. Il est le roi. Il est le roi. Il sait ce qui se passe dans son empire, enfin, bon flanc. Bon. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi est-ce que les prophètes de l'époque du deuxième temple ont choisi le 25 qui se lève comme étant le jour de l'inauguration de l'autel? Oui.
Parce que comme il est établi, c'était le jour de l'inauguration qui était déjà...
Non, mais c'est eux qui ont décidé que ce serait le jour de l'inauguration.
Ça, c'était avant, vous parlez avant de Antiochus.
Je parle ici de l'époque du deuxième temple.
Oui, oui, mais avant...
Avant Antiochus, oui. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le 25 qui se lève, les prophètes?
Ils avaient vu ça, ils avaient vu que c'est la parole d'Hachem, mais
non. Non. Tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'Hachem il a dit ça? Non, en fait, c'est parce que c'était la fête des Lumières. Et je vais expliquer de quoi il s'agit.
C'est la fête des Lumières. Ah, c'est le 25e mot de vérité.
Non, calmez-vous. Il y a dans la Torah un commandement des prémices, les bikurim. Quand est-ce qu'on amène les bikurim? Qui est assez... Vous direz ça? Où est-ce qu'a tiré c'est la Soukhot?
Ah, c'est qui... juste avant l'hiver, un peu comme ça. C'est de la 7e année, là.
Quelle est la fête que la Torah appelle Yom HaBikurim, le jour des prémices? N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi.
Shavuot.
La fête de Shavuot, c'est la fête des prémices. C'est du banal. Je pensais que vous connaissiez au moins le Chumash. Dans le Chumash, il est dit que la fête des Bikurim... très bonne. Que la fête des Bikurim, c'est la fête de... C'est terrible, c'est terrible. Là, j'en suis malade. La fête des Bikurim, c'est la fête de Shavuot, le 6 Sivan. Ça peut être le 5, ça peut être le 7, mais enfin, dans l'ensemble, c'est en Sivan. C'est au milieu de l'été. Enfin, dans le début de l'été, il y a la fête de Shavuot. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vraiment la fête des Bikurim. C'est la fête où on amène un pain de prémice sur l'autel, que l'on pose sur l'autel sans le brûler, et qu'on le fait descendre de l'autel et qui est mangé par les Kohanim. À partir de la fête de Shavuot, on peut amener les bikurim. C'est-à-dire, quelqu'un qui a des arbres fruitiers amène les nouveaux fruits. À partir de Shavuot, il les amène dans le Beth Amikdash. Quand est-ce qu'il les amène? Quand il veut. Il n'amène pas n'importe quel fruit, par exemple, pas les pommes ou les oranges. Il amène simplement des espèces qui sont la louange d'Eret Israël, qui sont les sept espèces, Rita, Seora, Geffen, Téna, Rimon, Zetchemen ou Dvash. En fait, comme les deux premiers, c'est du blé et de l'orge, ça ne, c'est pas dans les bikurim, il ne reste que cinq fruits dont on amène les bikurim. Quoi?
Donc, tu ne peux pas ça pour les cinq
fruits? Non, c'est écrit dans la Torah. Dans la parasha de Ekev. Ce sont les cinq fruits qui sont la louange d'Eret Israël. Mais vous faites semblant, en fait, de ne pas savoir, parce qu'en fait, je sais que vous avez lu le Chumash. En tout cas, donc, c'est quoi? Et donc, les cinq fruits en question, à partir de Shavuot, on peut les amener. Jusqu'à Soukhot. Pourquoi? Parce que Soukhot, ce n'est plus le début de la période agricole, c'est la fin, c'est là qu'on engrange. N'est-ce pas? Donc, il était souvent les gens donc préparaient leur bikouri, mais ils les amenaient, non pas à Shavuot, ils n'étaient pas toujours prêts, ils les amenaient à Soukhot.
À la fin?
Oui, bah, disons comme ça, quelqu'un a des figues de bikurim. Une figue, elle peut pourrir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la fait sécher. Ils amenaient des figues séchées dans le Beth Amikdash.
Des fruits secs.
Des fruits secs. D'accord? Hein? Et puis, s'ils avaient des raisins, bah, ils faisaient des raisins secs. D'accord? Comment? Bah, de toute façon, très simple, c'est que les raisins, ça sort... à peu près à la fin de Sivan. Quelqu'un est venu au Beth Amikdash à Sivan, il va pas reprendre encore la route pour amener une grappe de raisin. D'accord? Il attend la prochaine fois qu'il monte à Jérusalem. Donc ça se passe en général à Soukhot. Ça veut pas dire, il y a quelqu'un qui habite à côté de Jérusalem, il n'y a pas un problème. Il tire sa grappe sa première grappe de raisin de sa vigne, il l'amène au Beth Amikdash. Très bien. Mais si c'est quelqu'un qui habite, par exemple, à Be'er Sheva, ou bien en Galilée, alors ça lui prend du temps. Il n'y avait pas de voiture à cette époque.
Il n'y avait pas
de chiroute non plus. Ben oui, il n'y avait pas de voiture pour avoir de chiroute. Donc, en tout cas, les gens attendaient. Mais, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils amenaient les figues, ils amenaient le raisin, ils amenaient les grenades, ils amenaient les dattes. Et puis, il y a quelque chose qui ne pousse qu'après Soukhot. C'est quoi? Les oliviers. L'olivier ne donne ses fruits qu'après Soukhot. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on peut amener les bikourim des olives?
Jusqu'à Soukhot d'après?
Non, jusqu'à Hanouka. Jusqu'à Hanouka. C'est écrit en toutes lettres dans la Mishnah, dans Maseret Bikourim. Ça veut dire que vous avez ici une mitzvah qui est une mitzvah d'Eoraïta, ça fait partie des 613 commandements de la Torah, et il a sa limite dans le calendrier, le 25 qui se lève. Ça veut dire que et à quoi ça sert les olives au fait? À faire de l'huile. À faire de l'huile. Maintenant, l'huile ça se mange aussi. Maintenant, pourquoi jusqu'à Hanouka? Pour une raison très simple, c'est que c'est la fin de la récolte des olives. Le 24 qui se lève, c'est la fin de la récolte des olives. D'ailleurs, c'est l'époque où, en Judée et en Samarie, les petits jeunes Arabes ne lancent pas de pierres, parce que s'il y a un couvre-feu, alors toute la récolte est fichue. Et donc, ouais, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce que fait une société agricole de l'Antiquité qui a fini de récolter les olives? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une fête. Elle fait une fête. Une fête de combien de jours? De 8 jours, évidemment.
On met 8 jours.
Non, tout simplement parce que la fête de Soukhot aussi, c'est 8 jours. C'est là, quand on engrange. Alors maintenant, l'engrangement de l'huile, ben, c'est 8 jours aussi. Une fête d'engrangement. Et quel est le sujet central d'une fête sur l'huile? La lumière, les beignets, bien sûr. Donc, il est évident que les gens faisaient quelque chose avec cette huile, donc on faisait des beignets. Et comme c'est en plein hiver et qu'un agriculteur ne peut pas sortir, il n'y a rien à faire dans les champs à ce moment-là, ben il passe sa soirée à jouer à la toupie. D'accord? Donc, il y avait déjà dans la plus haute antiquité une fête de l'huile et des lumières et des beignets et des toupies le 25 du mois de Kislev. Maintenant, les prophètes qui ont inauguré le deuxième temple, ils ont compris que la présence divine dans le deuxième temple était beaucoup moindre de celle du premier temple. N'est-ce pas? À tel point qu'Antiochus peut profaner sans se faire brûler. Ce qui veut donc dire que le deuxième temple, c'était un peu comme une petite lumière dans l'obscurité. Donc, d'ailleurs, le prophète Zecharia, quand il voit le retour de la Shérina, il voit la Shérina revenir sous forme d'un candélabre de 7 branches qui illumine dans le noir. Et donc, c'est ça qu'ont vu les prophètes. Les prophètes se sont dit, puisque le temple que nous sommes en train d'inaugurer ressemble à une lumière dans l'obscurité, il faut donc inaugurer l'autel le 25 du mois de Kislev, qui est la fête où ce genre de choses est fêté. D'accord? Donc c'est pas donc on peut comprendre pourquoi ils ont fait leur Hanouka le 25 Kislev, parce que c'était la fête des lumières. D'accord? Mais si oui, l'huile. Bah, l'huile, elle sert à faire de la lumière. À quoi ça sert l'huile? Ça sert à deux choses, à manger et à s'éclairer. D'accord? À oindre.
Donc à la fête des lumières avec l'huile.
Hein? Exactement, oui.
Pourquoi après avoir récolté tous leurs olives, il fallait qu'ils fassent près de 8 jours?
Parce que toute société agricole qui a fini son travail fait des fêtes. Par exemple, la Torah nous dit de faire une fête lors de la récolte de l'orge, la fête de Pessah. Lors de la récolte du blé, Shavuot. Lors de l'engrangement de la récolte, Soukhot. N'est-ce pas? Ce sont des fêtes agricoles que nous a donné la Torah, indépendamment des autres raisons de la fête. Et donc, une société qui a fini le travail, surtout que c'est la fin de tous les travaux qui ont commencé en été et qui sont en train de finir en hiver, alors c'est normal qu'une société fasse la fête. Qu'elle soit 8 jours, c'est comme Soukhot.
Hein?
Soukhot, c'était 8 jours aussi. Pourquoi on fait 8 jours à Soukhot? Ça, il faut demander à la Torah pourquoi est-ce qu'on fait 8 jours en Soukhot. D'accord? Oui.
Pourquoi? Ok, il nous a fait une fête pour la fin de l'orge, pour la fin du courrier. Alors pourquoi la Torah ne demande pas de faire Chanukah directement? Elle nous demandait de faire Soukhot et Pessah. Pourquoi ne demande pas non plus de faire Chanukah?
Ah, parce que la Torah n'a pas voulu troubler les enfants d'Israël en faisant une fête dans le Beth Amikdash à la saison de la pluie. C'est le moment où il pleut. D'accord? Et donc, ça commence à Pessah, qui est début du printemps, ça finit à Soukhot, qui est début de l'automne. D'accord? C'est la période où il est techniquement possible de venir dans le Beth Amikdash. Maintenant, oui.
La fête de Chanukah complète, c'est pas grand-chose de plus que le Chanukah qu'ils avaient avant.
Non, justement. Ça prouve donc que c'est quelque chose de très ancien. À tel point même qu'en fait, ça revient, je crois, au premier homme. En effet, dans la Gemara, dans le traité de Avodah Zara, page Ret, il est dit en toutes lettres, je pense qu'une grande partie de vous le connaissent, parce qu'en général, mes cours sur Hanouka sont chipés par les autres rabbinim de la Marlaka. Et oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça a été imprimé, j'ai imprimé ces choses-là déjà. Et donc, tout le monde sait que c'était chipé. La Gemara nous dit que Adam Arishon a péché le jour de Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Et donc il a vu, à partir de Rosh Hashanah, que les jours se raccourcissaient. Il s'est dit, tiens, c'est à cause de mon péché que le monde doit être plongé dans l'obscurité, et que c'est ça la mort qui a été décrétée contre moi depuis le ciel. Et donc il en était très malheureux, et il a jeûné pendant 8 jours. Après ce jeûne, il a vu que la journée s'allongeait. Il s'est dit, ah, si c'est comme ça, c'est donc dans l'ordre du monde. Et il a fait une fête de 8 jours. Cette fête de 8 jours, dit la Gemara, c'est l'origine de la fête romaine des Saturnales. Alors maintenant, quand est-ce que arrive le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année? Le 21 décembre. Maintenant, combien de jours ça prend pour se rendre compte que la journée s'allonge? Une, c'est très faible. Il faut quelques jours. Ça va te prendre quelques jours. Donc, à partir du 24 décembre, au soir, il a fait sa fête de 8 jours, qui finit le 1er janvier. N'est-ce pas? Qui est donc l'origine de la fête des Saturnales chez les Romains, qui est devenue la fête de Noël chez les chrétiens. Et qui est en rapport, comment? Oui, le Nouvel An, c'est le 8e jour. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont comparé leur personnage central au soleil. Ils se sont dit, puisque le soleil a grandit à partir de ce moment-là, donc ils ont décidé que la fête des Saturnales, la fête romaine des Saturnales, deviendrait la fête de Noël.
Jésus n'est pas né le 25
décembre? Pas du tout né le 25 décembre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres traditions quant au jour de sa naissance. Il y en a 4 ou 5 différentes. Et donc, le 25 décembre, c'est à partir de ce moment-là qu'on fait une fête de 8 jours. Maintenant, en hébreu, ça tombe quand le 25 décembre?
En hébreu?
Oui. En moyenne, de beaucoup d'années, le 25 qui se lève. C'est là que commence ce qu'on appelle Tekufat Tevet. Et donc, il est évident que lors de la première année de l'histoire, il y avait correspondance entre les deux fêtes. Donc, l'origine de la fête de Hanouka et la fête du soleil chez les goïms, en fait, c'est la même origine. C'est à partir de ce moment-là que la lumière devient abondante dans le monde. Donc la fête des lumières n'est pas liée forcément à l'huile et aux olives, elle est liée à l'ordre astronomique. Ça veut dire qu'il y a dans l'ordre du monde un surplus de lumière à partir de ce jour-là. Et alors on comprend pourquoi 8 jours, parce que le monde, il est créé en combien de jours?
6. 7.
Et donc, plus un surplus sur le 7, plus que 7, c'est 8. Donc, il y a un surplus de lumière, c'est le 8e jour. Jusque-là, vous comprenez? Ce qui vous explique pourquoi, dans l'ordre de la création du monde, vous avez, comme vous l'avez essayé, et vous avez essayé plusieurs fois de le dire, le 25e mot de la Torah, c'est lumière. D'accord? Et c'est dans le troisième Pashtut, parce que c'est à partir du troisième mois de la création du monde. Et donc, ça vous donne le 25, n'est-ce pas? Donc, ça veut donc dire qu'en fait, il y avait une prédestination de cette date à fêter la lumière à partir du 25 qui se lève. Oui.
Je n'ai pas bien saisi.
Oui.
De quelle manière, comment c'est la revenue de faire une fête cette journée?
Chez les Goyim?
Oui.
Tout ça, d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'Antiochus aussi avait cette idée-là, parce que chez les Grecs aussi, il y avait un mythe lié à Saturne, enfin, ou pas à Saturne, mais à quelque chose de correspondant, comme quoi, à partir de ce jour-là, il y a plus de lumière dans le monde. N'est-ce pas? Et donc, comme il y a plus de lumière... D'ailleurs, c'est l'idée de la bûche chez les chrétiens, l'histoire de la bûche de Noël, vous savez pourquoi? C'est un truc très primitif chez les hommes préhistoriques. Comme ils savaient que cette nuit était la plus longue de l'année, alors ils avaient une sorte de terreur, qu'il fallait absolument qu'il y ait du feu pendant toute la nuit, et donc ils prenaient une grosse bûche qu'ils faisaient brûler. D'accord? Donc la bûche de Noël, il y a une origine païenne très très forte là-dedans. Oui.
Pourquoi on ne saurait pas le solstice d'été?
Le solstice d'été. Oui, bien sûr, le solstice d'été, le 21 juin.
Pourquoi on ne saurait pas? Bah là, il y a beaucoup plus de lumière.
Alors, il y a plein de lumière. C'est un maximum. Alors, pour nous, c'est le moment de la domination des Goïm. C'est l'époque de Tisha B'Av.
Ouais.
Ouais. Pas bon. Bon. Ouais. Oui.
Je vais juste répéter, parce que je ne peux plus finir de noter. Vous disiez que...
Pourquoi tu ne veux plus noter?
Hein?
Pourquoi tu...
J'ai pas eu le temps.
Ah, j'ai pas eu le temps, d'accord. Oui.
Vous avez dit que, comme les prophètes avaient vu que le deuxième temple était...
Une lumière dans l'obscurité. Donc, ils ont inauguré l'autel... le jour de la fête de la lumière dans l'obscurité. D'accord? Maintenant, si c'est vrai tout ce que je vous ai dit, il y a un petit problème. C'est que la fête de Hanouka, à l'origine, n'a rien à voir avec la lumière, elle a à voir avec la victoire.
À l'origine?
Oui, on a eu la victoire contre les Grecs, on a inauguré le temple qu'ils avaient souillé, alors c'est le 25 qui s'est... Quel rapport avec la lumière? Alors évidemment, les Chachamim nous racontent qu'il y a eu un miracle supplémentaire, le miracle de la fiole d'huile. Et c'est pas pour rien, donc le miracle était justement sur la fiole d'huile. Maintenant, on commence à comprendre. Il y a un rapport entre cette date, parce que le miracle aurait pu se faire sur la table du pain, elle aurait pu se faire sur le kétoret, elle aurait pu se faire sur beaucoup de choses. Or, précisément, la Providence a prouvé la présence de la Shekhina dans le Beth Amikdash à travers ça. Maintenant, autre chose. En fait, c'est parce que c'était un affrontement contre les forces de l'obscurité. Qu'est-ce que c'est les forces de l'obscurité? C'est traditionnellement, selon les Midrashim, la Grèce. Quand la Torah nous parle du désordre originel dans la création, elle nous dit que la terre était tohu, bohu, obscurité, sur l'abîme. Et le Midrash explique, tohu, c'est Babylone. Bohu, c'est la Perse. L'obscurité, Rocher, c'est la Grèce, qui a obscurci les yeux d'Israël. Et Théom, l'abîme, c'est Rome. D'accord? C'est-à-dire que les désordres qu'il y a dans l'histoire par les grands empires qui essaient de dominer le monde, ça a son origine dans l'ordre de la création. Tohu, Bohu, Rocher, Théom. Mais, donc, puisqu'on lutte contre la Grèce qui est l'obscurité, donc il est évident qu'il y a un rapport entre la lumière et la victoire contre les Grecs. Mais, oui, hein? Non. Non. Oui. Hein? Hein? Quoi? Ah, là, la question est très importante. Une petite... je demande l'attention de l'assistance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oyez, oyez, bonnes gens. La question, pourquoi appeler la Grèce obscurité? C'est quand même bizarre. Alors que c'est de l'obscurantisme de dire que la Grèce est obscure. Étant donné que c'est de la Grèce que vient l'esprit scientifique, la démocratie, la philosophie, l'esthétique, et tant d'autres belles choses. Alors, la Grèce a été une source de lumière dans le monde. De toutes les civilisations, c'est la plus lumineuse. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim se sont entêtés à dire que la Grèce, c'était l'obscurité. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Hein ? Parce que c'est un voile, justement.
Parce que...
Oui.
Très bien.
Je sens des rivalités au sein de...
Non, 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 il a, c'est, oui. C'est parce que c'est, ils ont tous ces génies-là qu'ils ont,
oui,
à prétention à voiler la lumière.
Disons comme ça. C'est une lumière qui est rivale d'une autre lumière. C'est-à-dire, une lumière obscurcit une autre lumière. C'est comme quand vous avez deux ondes électromagnétiques qui se rencontrent, eh bien, une onde en annule une autre. Et donc, c'est précisément la lumière grecque qui est source d'obscurité pour nous. Mais pourquoi ? Et là,
elle est séductrice.
Oui, évidemment, il y a une séduction très forte de la Grèce. Il y avait, dans une des poésies de Rabbi Yehuda Halevi, il dit « Al tefatecha chochma yevanit, shen la perot kim perachim, ne sois pas tenté par la sagesse grecque qui n'a pas de fruits mais qui n'a que des fleurs. » Oui.
Parce que les Grecs, ils voulaient enlever la Torah de sa connexion avec le peuple juif. D'ailleurs, quand ils l'ont traduit, ils l'avaient mis dans la bibliothèque.
Oui, ça prouve qu'on ship mes cours, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais disons comme ça, cette idée que tu ramènes, qui est que, oui, bien sûr, cette idée que la Torah ne serait qu'une des émanations de la culture générale, et donc elle n'a rien à voir avec le peuple juif, cette idée-là, comment est-ce qu'elle a été possible ? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'à un moment de l'histoire, on a pu considérer que la Torah n'avait rien à voir avec l'histoire d'Israël, à tel point qu'elle pouvait être traduite en grec et même posséder une version en hébreu. D'accord ? C'est à peu près ça que fait l'hellénisme. D'accord ? D'ailleurs, dans la culture générale actuelle, également, c'est un peu comme ça. Le judaïsme serait une des manifestations possibles de l'humanisme. Un truc comme ça. Ça a été possible pour une raison très simple. C'est que c'était après les prophètes. C'est-à-dire, quand il y a des prophètes dans le monde, tout le monde sait très bien que la parole de Dieu est adressée à Israël. C'est une parole. À partir du moment où cette parole cesse, alors la Torah devient une sagesse. Une sagesse, c'est universel. C'est pour tout le monde. Et c'est pas pour rien qu'il y a un midrash qui dit que les derniers des prophètes sont morts le jour où Alexandre le Grand est arrivé en Eretz Israël. Historiquement parlant, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça veut dire quelque chose de très fort pour le Midrash, c'est que l'hellénisme, c'est la fin des prophètes, ou la fin des prophètes, c'est l'hellénisme, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a un moment où la révélation cesse, et donc Antiochus peut rentrer dans le temple et faire ce qu'il veut. L'hellénisme, c'est une civilisation. L'hellénisme, c'est une civilisation qui est née à partir de la conquête d'Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand a conquis le monde, il a conquis l'Empire perse, il a conquis l'Eretz Israël, etc., alors a été fondée une nouvelle civilisation qu'on appelle hellénisme, Hellas en grec ça veut dire la Grèce, et qui est une sorte de civilisation grecque un peu dégradée. C'est-à-dire, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le monde occidental actuel. Cette idée qu'il y aurait des grands cadres de la civilisation et que chaque civilisation, en fait, n'est qu'un cas particulier d'un grand système qui serait idéalisé, qui serait présenté de manière idéale par les Grecs. D'accord ? Donc, le Beth Amikdash, c'est encore un temple grec. Grec juif, évidemment. Et les temples égyptiens, ce sont des temples grecs, un peu pharaoniques, mais c'est des temples grecs. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que tout homme sur Terre est un Américain qui s'ignore. C'est-à-dire, nous sommes tous des Américains à différents degrés, puisque nous buvons tous du Coca-Cola, et nous avons tous du chewing-gum, d'accord, et des hamburgers. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y aurait une sorte de grand cadre de la civilisation, et chaque manière d'être homme n'est qu'une manifestation particulière. C'est ça l'hellénisme. D'accord ? C'est ce que portait un type comme Antiochus, et même les Kohanim à Jérusalem à l'époque, qui admettaient volontiers qu'on pouvait aller au gymnase et après présenter les korbanot dans le Beth Amikdash. D'accord ? Oui ? Alors, la Shekhina n'était pas présente dans le deuxième temple. C'est ce que dit la Guémara. Simplement, nous savons qu'elle était comme un peu présente. Il y avait ce qu'on pouvait dire une mini-Shekhina. Et cette mini-Shekhina a persévéré même après la profanation par les Grecs. C'est pour ça qu'il a fallu le miracle de la fiole. Parce que, après la victoire contre les Grecs, on pouvait se dire, d'accord, on a eu la victoire parce qu'on était plus fort. Tu veux bien ne pas le cacher, Daniel ? Oui, on a eu la victoire parce qu'on était plus fort. Mais peut-être que c'est les Grecs qui ont raison, dans le principe. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu, pour calmer cette inquiétude, découvrir la fiole d'huile et qu'elle soit miraculeuse, pour prouver qu'il y avait une présence de Dieu en Israël, même à l'époque post-prophétique. Mais cette lutte n'est pas finie. Elle a continué jusqu'au jour de Hanouka, de l'année 1917. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Hanouka, l'année 1917 ?
De quelle ère ? De l'ère vulgaire ou de l'ère...
1917, de l'ère vulgaire.
La révolution russe,
non ? Non, la révolution russe, russe était en octobre. Il y a eu un truc très simple qui s'est passé à Jérusalem. Le général britannique Allenby est arrivé aux portes de Jérusalem le 24 qui se lève. Il a reçu les clés de la ville dans un endroit qui se trouve derrière la Tahana Merkazi de Jérusalem. Vous avez une stèle, là-bas une très belle stèle qui représente justement l'événement. Et donc il est entré à Jérusalem, il a passé la première nuit à Jérusalem, à Hanouka, ce qui était l'application politique et militaire de la déclaration Balfour qui avait précédé de quelques semaines. C'était donc la première application concrète du retour d'Israël sur sa terre, à la souveraineté. Et ça s'est passé donc à Hanouka en 1917. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'il y a tout un cycle qui est prédestiné par rapport à cette date et que nous fêtons à Hanouka. Jusque-là, vous avez compris ? Voilà. Donc ça, c'était pour comprendre la date. Maintenant, quelle est la mitzvah la plus importante de Hanouka ? Le Hallel se récite, c'est une takana qui a été instituée par les prophètes lors de la sortie d'Égypte, qu'à chaque fois qu'il y aurait indépendance politique, on récite le Hallel. C'est la raison pour laquelle on fait le Hallel à Yom Ha'atzmaout. Et de manière subsidiaire, il y a le miracle de la fiole qui est commémoré par l'allumage des lumières le soir de Hanouka. Oui.
Hein? La lumière qui se diffuse à l'extérieur.
Exactement. Maintenant, un petit point important, je voudrais finir avec ça, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé à partir de l'époque de Hanouka ? Dans le Halan ici, on dit, après bon, qu'on raconte la victoire, etc., on dit, « Ulecha asita shem gadol vekadosh bo'olamecha » Tu t'es fait un grand renom dans ton monde. Effectivement, s'il n'y avait pas eu la victoire des Hashmonaïm, le monothéisme aurait continué à exister dans quelques villages de Judée. Ça aurait été une curiosité intéressante sur le plan anthropologique. On aurait été voir, on serait venu voir de loin des gens qui ne croient qu'en un seul Dieu, qui n'ont pas de statut. C'est assez bizarre, hein, c'est quand même marrant, on peut leur lancer des cacahuètes. Mais en fait, ça n'aurait pas eu d'impact dans l'histoire. À partir du moment où a été fondé le royaume des Hashmonaïm, alors nous sommes redevenus quelque chose d'important sur la scène politique internationale. Et c'est à partir de ce moment-là que le judaïsme a eu de l'influence, à tel point que soit fondé le christianisme et l'islam. On peut dire donc que une des réussites indirectes des Hashmonaïm, c'est d'avoir fondé le christianisme et l'islam, indirectement. Hein ? C'est une demi-réussite, ça n'a pas été la meilleure des choses, mais il y a eu un progrès par rapport au paganisme antique. Oui.
Oui. Alors pourquoi les Juifs, malgré tout, ont renvoyé les Maccabées après avoir
Ils n'ont pas renvoyé les Maccabées, mais ça c'est un autre sujet. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas développer ça parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et voilà, c'est tout. Non, on m'a dit d'arrêter 3 minutes avant alors. Ouais, je peux. Ouais, bah, d'accord. Mais c'est quoi ta question ?